carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Les Fées est le deuxième opéra de Wagner inspiré d'un conte de Carlo Gozzi, La Donna Serpente. Richard Wagner a 20 ans lorsqu'il compose en 1833 cet opéra qui ne sera monté qu'en 1888. Le Théâtre du Châtelet présente pour la première fois en France cet opéra de jeunesse de Wagner du 27 mars au 9 avril 2009. Marc Minkowski assure la direction musicale de cet opéra mis en scène par Emilio Saggi avec la participation de l'orchestre et du chœur du Louvre Grenoble, avec comme chanteurs lyriques Christian Libor, Deborah Mayer, William Joyner, David Curry, Lina Tetruashvili, Salomé Allaire, Eduardo Melo, Laurent Alvaro, Judith Cottier, Nicolas Testé, Brad Cooper et Laurent Nauri dans le rôle de Guernot, le serviteur du prince Arendal, pour lequel la fée Ada devra renoncer par amour à l'immortalité. En fond sonore, le chœur et l'orchestre de la radio bavaroise dans leur interprétation des fées, en attendant de vous faire entendre Les Fées sous la direction de Marc Minkowski au Théâtre du Châtelet. Retrouvons entre deux répétitions, à quelques jours de la première, le baryton Laurent Nauri. Laurent Nauri, vous interprétez le rôle de Guernot dans Les Fées de Wagner, qui sont montées en création française au Théâtre du Châtelet. Comment percevez-vous ce rôle un petit peu particulier dans cet opéra de jeunesse de Wagner?
C'est le comic relief de l'opéra. C'est donc un valet, un serviteur. Et finalement, il a surtout comme fonction d'abord d'exposer la situation, qui est passablement compliquée au début de l'opéra. Puis, en gros, il essaye de convaincre son maître que la fée dont il est tombé amoureux n'est qu'une illusion. Donc ça, c'est ce qui va donner lieu à sa fameuse romance où il parle d'une sorcière qui avait une bague qui la rendait très belle et on ne s'apercevait pas qu'au fond, elle était extrêmement laide et méchante. Et voilà. Et ensuite, la deuxième action individuelle, si vous voulez, c'est un duo
avec
Papageno-Papagena, voilà, qui est vraiment un peu comme un cheveu dans la soupe dans la dramaturgie. C'est le moment de « oh, c'est tragique, mais enfin, on va essayer de respirer un peu ». Et le reste du temps, comme d'ailleurs la plupart des personnages, il est noyé dans l'action collective, à coups de rebondissements, de massacres, d'enfants torturés, et tout cela, si vous voulez. Là, il s'agit surtout d'être aux aguets et de participer au mouvement dramatique d'ensemble. Mais les deux petits moments que j'ai la chance de chanter sont assez amusants et assez bien écrits. Ouais, je pense parmi les pages les plus réussies de cet opéra.
Là, on vient de vous voir en répétition avec Judith Gautier dans le rôle de Drôla, ouais. En duo tous les deux, ouais. Justement un duo un petit peu comique, assez drôle, qui apporte une réelle,
un
peu d'oxygène dans cette histoire effectivement un peu compliquée. C'est la première fois que vous chantez un opéra de Wagner?
Oui, si tant est qu'on peut appeler ça un opéra de Wagner, parce que c'est un opéra très particulier, qui, je pense en blind test, il y a peu d'endroits où quelqu'un qui ne connaîtrait pas cette partition pourrait sans aucun doute l'identifier comme étant du Wagner. En particulier d'ailleurs ce que j'ai à chanter moi, qui est vraiment plutôt d'essence beethovenienne et mozartienne. C'est vraiment un opéra du jeune Wagner. Il y a vraiment une rupture telle entre ça et la défense d'aimer, on va dire Rienzi un peu intermédiaire, quoique, et puis tout d'un coup le vaisseau fantôme qui surgit comme ça, un peu comme un ovni, et qui vraiment identifie Wagner comme Wagner. Donc c'est l'opéra d'un très jeune homme, 20 ans. C'est un opéra où on sent l'énergie un peu désordonnée d'un garçon de 20 ans, comme ça, capable de maintenir des choses très très fortissimo, très fortes, très tendues pendant très longtemps, sans se soucier si peut-être parfois il gagnerait pas à être un tout petit peu plus retenu ou un petit peu plus ordonné dans le sens. C'est très, assez touchant de ce côté-là, parce qu'on sent qu'il n'a pas encore complètement la maîtrise, mais on sent une énergie fantastique, fantastique. C'est vraiment très, très intéressant à découvrir pour cette raison. C'est aussi intéressant parce que on entend tout ce que le début du 19e siècle a digéré de Mozart et de Beethoven. Et vraiment plus ça que les grands opéras, que les Weber, que les choses comme ça. Moi, j'entends vraiment beaucoup de Fidelio et beaucoup de Mozart aussi. Les airs des sopranes, à part qu'ils sont plus dramatiques, sont construits comme l'air de Fiordiligi, enfin comme des choses comme ça. Il y a vraiment des phrases typiquement mozartiennes, ce qu'on a vraiment pas, on n'est pas enclin à associer à Wagner.
Comment vous vous êtes préparé à ce rôle ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ?
Difficulté, oui. La difficulté, c'est que justement, ce n'est pas encore un garçon très organisé, Richard, et que donc il compose de façon finalement assez désordonnée. Pour la mémoire, c'est assez énorme, parce que vous avez très peu de points de repère, les structures sont assez floues, donc vous avez l'impression des fois, est-ce que je dois répéter le truc là 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous ne savez pas pourquoi c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, les mots changent un petit peu de temps en temps, des petites formules changent, c'est très très précis comme notation, touffu. On sent à certains moments qu'il fera plus tard l'économie de ce côté-là. Donc, c'est très bavard. Enfin, bavard, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, énormément de textes. Donc, c'était vraiment surtout un énorme travail de mémorisation. Ce n'est pas harmoniquement, c'est de la musique de 1830, c'est rien de bien difficile. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rabâchage pour arriver à se mettre ça dans la tête de façon à peu près sûre.
Comment le livret et la partition vous ont séduit ?
Plus, je pense, moi, la musique, hein, très franchement, je crois que le livret, il domine pas encore vraiment son sujet.
On dit que l'histoire est confuse tellement.
Oui, bien sûr,
c'est
elle
compliqué.
Est très confuse, j'arrive même pas à la raconter moi-même. Et donc, ça, moi, ça m'a fait plutôt rire. Hein. Mais il faut le dire qu'à 13 ans, il avait déjà écrit une pièce de théâtre où tous les personnages, une trentaine, mouraient à la fin de la première partie et à la première scène, ou je ne sais plus quoi, ils réapparaissaient ensuite sous forme de fantômes. Enfin bon, si vous voulez, je pense qu'il n'aurait pas refusé de faire la musique du Seigneur des Anneaux, quoi, maintenant, de toute façon. Donc on sent déjà hanté par toute cette mythologie, par tout ce côté merveilleux.
Et ça vous a séduit, Laurent Nauris ? Vous êtes proche de cet univers onirique, fantaisiste ?
Parce que, disons que il y a une naïveté à la flûte enchantée, un peu, qui n'a jamais été tellement mon univers, de toute façon. Je ne sais pas voir au fait que c'est onirique ou qu'il y a plein d'histoires oniriques ou fantastiques ou des choses comme ça qui me séduisent énormément, hein, je veux dire. Mais déjà, le Ring, c'est une belle bonne histoire, ça marche bien, ça fonctionne bien. Bon, là, je pense qu'au contraire, je trouve que l'intérêt de la mise en scène, c'est de le tirer vers ce que ça peut avoir un petit peu de... Il faut distancier la chose, parce que, par exemple, les deux copines fées de la Reine des Fées sont plutôt un élément assez, comme ça, assez comique, assez distancié par rapport à l'action, et c'est plutôt pas mal, ça, parce que si on regarde ça au premier degré, ça tient pas le coup 3 instants, mais cela dit, c'est... Je veux dire, on a la même chose avec plein de livrets d'opéra. Hein. Et Wagner avait l'excuse pour lui d'être non seulement débutant, mais en plus de vouloir s'attaquer à tout en même temps.
Dans cette œuvre de jeunesse donc, de Wagner, musicalement, quels sont les repères qu'on y trouve déjà ?
Vous
parliez
déjà,
tout à l'heure.
Il y a des harmonies qui sont la marche des Valkyries. Ça, c'est assez amusant. Il y a des choses qu'il utilise, des intervalles diminués qui sont typiques de ce qu'il va utiliser après. La largeur de l'orchestration... L'ampleur du geste, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, il arrive plus à le structurer. Mais là, il y a des fois où c'est un final qui est tendu pendant 20 minutes, ce qui fait qu'on peut ne plus percevoir la tension d'ailleurs, parce que justement la tension se nourrit de contraste, si vous voulez, donc il faut être très vigilant à ça, et le moindre bout de contraste qu'on peut trouver, il faut l'exploiter. Mais il y a cette espèce, voilà, cette espèce de grand souffle d'énergie parfois terrifiante, qui est vraiment intéressante de ce côté-là. Maintenant, autant il y a des scènes auxquelles je souscris à 100%, autant il y a des scènes où je dis non, là Richard... il faut que les choses avancent plus vite, ou il faut que tu trouves une solution. Parce que, mais c'est
alors, comment normal. S'est arrangé Emilio Saggi et Marc Minkowski? Comment se sont-ils arrangés justement avec ces
histoires? Non, je pense que Emilio essaye de distancier l'histoire, qu'on la regarde un petit peu avec un œil attendri, je dirais. Que la beauté des images, parfois, puisse... peut-être mieux faire accepter une certaine lenteur de l'action collective au lieu d'essayer de la remplir par des actions factices qui, en fait, ajouteraient pas grand-chose, parce que quand il se passe rien, il se passe rien. Enfin, je veux dire, donc là, il faut simplement essayer de le construire, au moins lui donner une certaine architecture, quoi. Et c'est plus de ça qu'il est question. C'est pas Dimitrov, dire on n'a pas le livret des Noces de Figaro, hein, ça c'est certain. Les Noces de Figaro, n'importe qui peut le mettre en scène. Enfin, je veux dire, ça n'a pas tellement de mérite. Moi, je trouve que on peut toujours faire des bonnes Noces de Figaro. Se planter, disons, dans les Noces de Figaro, c'est vraiment, on n'a aucune excuse, quoi.
Vous trouvez qu'il y a un risque là dans cette
plus une œuvre a des faiblesses, plus c'est vrai qu'on joue sur la corde raide. Mais si on faisait que les gros choses, je pense que c'est vraiment intéressant à découvrir, parce que c'est un monde vers 1830 qui est en train de se chercher.
On est dans le romantisme complet, voilà. Aussi, avec la jeunesse par-dessus.
Absolument, avec rose, voilà.
Donc il y a un peu de côté rose bonbon, paillettes.
Et puis grand fouillis, quoi. Et c'est là-dedans, justement, dans cette espèce de grand fouillis apparent, il faut essayer à chaque fois qu'on peut trouver une notion d'ordre ou de dynamique, enfin de l'exploiter, quoi. Donc c'est ce qu'on essaie de faire.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de chanter là cet opéra de Wagner, par rapport à tout ce que vous avez chanté jusqu'à présent? Est-ce que c'est une expérience particulière?
Franchement, c'est une façon peut-être pour moi de commencer à mettre avec un texte aussi dense, aussi dur. On peut dire que c'est un bel entraînement pour pas mal de choses à venir. Rosenkavalier l'année prochaine et des choses comme ça. Donc moi, ça me met pas mal en sécurité et en confort vis-à-vis de mon rapport à l'allemand, qui a longtemps été torturé ou un peu pas très confiant. Et de ce côté-là, je suis très content, parce que j'ai le niste germanophone de l'orchestre, je te comprends mieux que les Allemands. J'étais content, moi, au moins de ce côté-là, j'ai gagné, j'ai progressé. Donc maintenant, ça m'amuse de chanter cette air-là, parce que je trouve vraiment bien et joli. Ce duo, je trouve super, vraiment superbe. Je trouve mieux que le duo Papageno-Papagena, quoi. Je suis assez gâté avec ce que j'ai à chanter là-dedans, quoi.
Merci Laurent Naouri.
Je vous en prie. Thank you.